Money Time.
Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Money Time.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Money Time, l'émission sportive de Prune sur le 92 FM et sur www.prune.net partout sur la planète. Alors ce soir, Money Time saison 5, et oui déjà épisode 2 seulement, avec une petite bande de chroniqueurs pour m'accompagner ce soir autour de la table et on commence par la gauche avec toi mon Charles.
Bonjour, bonsoir à toutes, ravi de vous retrouver en ce lundi.
Merci de ta présence et en face de toi, c'est Jean-Marc, comment ça va mon pote ?
Ça va très bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous et j'en profite pour féliciter notre ami Hugues qu'on avait eu l'année dernière pendant l'Euro, qui a fait son premier Ironman et qui a réalisé un temps de 12h51. C'est plutôt pas mal.
Big up à lui, effectivement. C'est pas nous qui ferions ça.
Non, et comment pourtant ça on a le même âge.
Allez, on termine les présentations avec en cabine notre réal, c'est Maëlan. Salut Maëlan.
Salut à toutes et à tous.
Alors, au sommaire ce soir, eh bien, on parle de foot, bien sûr. Retour sur la Ligue 1, les championnats étrangers. Dans la foulée, la grande page handball. Ça concerne nos violets et nos roses. Hein. Le H et les Neptunes, et dans la foulée, dans la page multizone, on parlera de cyclisme. Il y avait quatrième monument de la saison qui se courait ce week-end. Du sport méca avec des résultats. Et en fin d'émission, pas de quiz. Voilà pour le sommaire. On enchaîne, c'est le Prune Football Club.
Money Time. Le Prune Football Club. FC Nantes, Ligue 1, Champions League, foot étranger et bien plus encore. Le Prune Football Club.
Money Time.
Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et on commence notre rubrique football en parlant bien sûr du FCN, nos Canaries, qui, dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1, recevait 3
à 3h le 3.
Pour une victoire 2-0.
Et pour prendre 3 points.
Exactement. Belle victoire propre et nette. Un très beau but de Giroto pour ouvrir le score. Une belle tête.
Sur corner.
Un beau corner bien frappé de Willian Cyprien. La recrue nantaise.
Et puis après, ce pénalty fort justifié pour une main dans la surface, transformé par Blaze.
Tranquillement, on le sait, de toute façon, il avait réussi ses quatre derniers pénaltys. Il réussit celui-là, il concrétise.
Transforme.
Il transforme très bien son pénalty. Une bonne victoire des Nantais, hein, parce qu'il fallait se reprendre après la défaite face à Reims. Surtout, défense qui était un peu inquiétante.
Et puis, un match qu'on n'avait pas compris des Nantais, qui était vraiment passé au travers.
Oui, c'est ça, il y avait un non-match, alors que pourtant, sur les derniers matchs avant, Nantes était bien, produisait du jeu. Là, c'est vrai que c'était un petit peu l'exception. Voilà, ce match est passé. Et là, Nantes se retrouve bien, la Beaujoire, avec une belle victoire, du coup, 2-0 face à 3.
Et puis, on prend de la confiance.
Exactement.
Pour la semaine prochaine, enfin, ce week-end, où ça sera Bordeaux, déplacement là-bas.
Sachant que Bordeaux n'est pas forcément dans une bonne situation plus que ça.
Ça pourrait être bien d'aller gagner à Bordeaux.
C'est ça.
Du coup, alors, je vous donne le classement juste de Nantes. On y reviendra après.
Dans le top 10.
Dans le top 10, exactement, à 13 points, à 3 points du podium. Ce qui fait que s'ils avaient gagné, ils seraient sur le podium. Mais bon, bref, on va retenir plutôt le côté positif d'une équipe qui sait gagner les matchs.
Et qui, ouais, c'est ça, et qui marche bien en ce moment. Voilà, donc faut continuer. Ludovic Blas, qui est vraiment le meneur d'équipe d'Antoine Kumbuaré cette année, qui marche très bien. Moses Simon, qui continue de faire des différences sur son côté. Randal Kolo Muani, qui est toujours présent sur le front de l'attaque et tout, et qui va, je pense, encore mieux marcher que l'année passée, parce que c'est un peu sa vraie deuxième saison au très haut niveau. Voilà, donc on a vraiment Boukari aussi, hein, qui fait quand même des différences sur son côté. Il faudrait juste qu'il soit un petit peu plus précis sur la dernière passe ou dans la dernière frappe, mais qui fait quand même des différences. Et donc ça c'est intéressant, surtout que Goebbels s'est blessé, oui, celui qui était sa première titularisation, donc ça c'est un peu dommage pour lui.
C'est vrai que Goebbels se soit blessé...
Ça c'est un peu, et puis là on a toujours le milieu William Cyprien, Pedro Chirivella qui règne en maître sur le milieu de terrain nantais. À noter que Moses Simon a été élu Canari du mois de septembre.
Donc, justifié par rapport aux trois derniers matchs où il avait, malgré la défaite à Reims, il avait été vraiment impressionnant.
Exactement, bah c'est un des Canaris les plus percutants en ce début de saison. Il est quand même déjà à 5 passes décisives en ce début de saison après 9 matchs. C'est quand même très correct lui. Après, il faudra qu'il concrétise un peu plus en termes de finition. Il manque encore ses 2-3 buts de plus au bout de 9 matchs pour vraiment faire une saison pleine.
Après, si c'est remplacé en passe décisive,
ça oui, non, aussi, mais c'est hein. ça.
Ouais, et puis moi j'ai l'impression que Kumbuaré il amène des garanties à ce club, en tous les cas des garanties comptables.
C'est ça, bah c'est aussi la continuité. Nantes, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas un entraîneur qui restait en poste
longtemps. Hein.
Exactement, une saison d'après. Et là, Kumbuaré, je pense qu'il amène de la stabilité, de la confiance à une équipe qui s'est très peu renouvelée finalement. Cette saison, avec des joueurs qui prennent de la confiance, qui prennent en maturité, qui sont plus solides. Moi je pense à Pedro Chirivella, hein, qui devient un titulaire indiscutable au milieu de terrain. On a Ludovic Blas qui s'affirme encore plus, donc Randal Kolo Muani qui progresse encore plus. Donc c'est une équipe qui est basée sur la continuité, donc il n'y a pas de raison que ça fasse moins bien que l'année dernière. Et au contraire, je trouve qu'avec des joueurs qui progressent, Nantes peut faire une saison correcte, hein, parce qu'on ne va pas se cacher non plus. C'est pas
on fera
plus,
le bilan à la trêve. Mais
je pense qu'il utilise le maximum de capacité de son équipe, Antoine.
Attention, Nantes a l'habitude de faire des bons débuts. Hein,
et s'écraser en deuxième partie de saison, on s'en souvient, avec Claudio Ranieri notamment.
Après, savoir si on perdra des joueurs à l'intersaison.
Exactement. Donc, on espère
pas. On va voir de nos voisins ce qu'ils ont fait ce week-end. Et un voisin qui nous intéressait, c'était nos voisins rennais qui recevaient le leader, le Paris Saint-Germain.
Belle perf des rennais après avoir gagné un bon petit match en Europa League Conférence à Vitesse Arnhem 2-1. Ont battu le Paris Saint-Germain qui était invaincu jusque-là.
Exactement, le Paris Saint-Germain qui réalisait un début de saison parfait.
9 sur 9.
Là, se sont fait surprendre par les petits Rennais et tout, hein, qui réalisent pourtant pas forcément en début de saison assez mitigé. Hein, on les a vus très performants, notamment face à Clermont avec une victoire 6-0. Mais on les voit aussi parfois beaucoup moins bien, des défaites surprenantes.
Ils avaient vraiment raté le tout début, avec des matchs nuls contre Brest. C'est vraiment le début qu'ils ont raté. Ils ont mis du temps à se mettre en route. En fait.
C'est ça, ils ont mis du temps à se mettre en route.
Ça piétinait, et puis il y a eu cette victoire face à Clermont, peut-être, qui a été...
Ça a un petit peu déclenché tout ça. Il y a eu la victoire face à Clermont, c'est leur première victoire de la saison. Et après, ils ont enchaîné contre Bordeaux avec un match nul, mais après, cette victoire contre le Vitesse, puis contre le Paris, peut enclencher une dynamique pour Rennes, qui surtout a une très belle équipe.
Je pense que ce qui a déclenché quelque chose chez les Rennais, c'est leur match nul à domicile contre Tottenham.
Aussi, ouais.
Ils se sont prouvés qu'ils étaient capables d'exister
face à des grands d'Europe, parce que Tottenham ça reste quand même un des grands, très belle équipe, et qui normalement joue la Ligue des Champions, hein. On s'en souvient de leur finale il y a 3 ans,
antépénultième finaliste de la Champions League.
Et donc, moi j'ai envie de parler d'un joueur, c'est Gaëtan Laborde qui réalise un début de saison exceptionnel,
meilleur buteur du championnat pour l'instant.
Exactement, l'ancien joueur de Montpellier qui faisait la paire avec Delors, finalement les deux se sont séparés, les deux ont quitté Montpellier, mais les deux marchent très bien, et Gaëtan Laborde à Rennes, il réalise un très bon début de saison.
Au grand dame de Montpellier qui n'a plus que Mollet pour marquer des buts.
Ah, Valère Germain fait quand même un bon début de saison.
Il fait une très belle passe à Mollet sur le but pour le match nul de Montpellier face à Strasbourg.
Exactement. Allez, on s'intéresse à un autre voisin, celui-là qui a perdu ce week-end, c'est Brest, défait à Nice.
À l'Alliance Riviera.
Et du coup, voilà. Alors, Je ne vais pas taper sur Michel Derzakarian parce que c'est quelqu'un que j'apprécie. Mais dans la question que je lui ai posée après le nom de Brest qu'on a vu avec Lucien l'autre jour, je lui ai demandé si il y avait une possibilité qu'il change de gardien, puisqu'il avait changé de gardien cette saison en mettant Larsonneur de côté, qui est une image à Brest, Gauthier Larsonneur. Et puis du coup, il m'a dit oui, mais 70 buts la saison dernière pour justifier son choix. Et ça, il a le droit. Quand on voit ce qu'a encore fait le gardien de Brest à Nice,
Marco Bizot.
Bizot.
Ouais.
Qui fait encore une erreur dans. Enfin, et puis il n'a pas été bon. Enfin, ils perdent 2-1. J'aurais pu perdre 3-0.
Oui, parce que Nice a vraiment eu des occasions. Nice qui fait très bon début de saison. Brest, c'est vrai que là, en début de saison, je ne pense pas que ça soit le coach, parce que Michel Derzakarian a prouvé que ce soit à Nantes ou à Montpellier qu'il est un bon entraîneur.
Effectif un peu léger.
Mais l'effectif est très léger, surtout en défense.
Ça, c'est son excuse.
Oui, alors ça c'est son excuse, mais quand on perd Romain Perrault, qui était un des meilleurs latérales gauche l'année dernière en Ligue 1, forcément quand tu remplaces, ok, Gauthier Larsonneur prend des buts, mais au bout d'un moment, l'année dernière, Brest était une équipe qui jouait, qui assumait le déséquilibre, qui assumait le fait de se protéger énormément sur l'avant, et ils concédaient des buts, mais ils en marquaient aussi beaucoup. Donc forcément, Gauthier Larsonneur, il devait en prendre, surtout, c'est Brest, c'est pas non plus le PSG.
C'est clair.
Donc, au bout d'un moment, là, cette année,
c'est ce que je lui reproche un petit peu, parce que globalement, alors, ce qu'il utilise comme excuse, c'est qu'il lui manque des joueurs qui sont un peu légers. Je suis d'accord avec vous. En même temps, au niveau de leur défense, ils ont Brendan Chardonnay en défense centrale, qui est un très très bon défenseur central. Qui est aussi buteur un petit peu. Alors, il y a peut-être un petit décollage, comme tu disais, sur Perrault, mais je trouve que l'équipe n'a pas été aussi réduite que ça. Ils ont gardé Romain Fabre, ils ont gardé Franck Honora.
Non, mais
Favre, pardon.
Favre, pardon. Ils ont gardé quand même des joueurs, mais ils ont perdu quand même Gaëtan Charbonnier, qui était, je pense, aussi un leader de vestiaire.
Leader de vestiaire, parce que c'est pas quelqu'un qui marquait beaucoup malgré son poste d'avant-centre.
L'année dernière, il a fait quand même plutôt une bonne saison. Après, moi je l'aime bien. Ouais, après, au milieu. C'est vrai que finalement, ils sont pas non plus énormément changés. Mais c'est vrai que Marco Bizot, peut-être qu'il est moins bon que Larsonneur finalement. Le départ de Romain Perrault qui faisait beaucoup de différence. C'est vrai que puis c'est une équipe avec de nouveaux joueurs. Enfin, on nous parle il y a Lucien Goumet qui est titulaire notamment. C'est un jeune joueur encore qui a pas énormément prouvé au très haut niveau.
Mais justement, je trouve le changement. Moi, je tenterais juste un truc, c'est de sortir Bizot et de remettre Larsonneur, qui était vraiment un pilier dans cette équipe.
C'est un gars
qui a une énorme personnalité. Il est d'à côté, il est de. Je sais plus, c'est Audierne ou Camaret, je sais plus, par là.
Il est de la région.
Il est de la région, c'était un vrai pilier de vestiaire. Il l'a un petit peu déstabilisé en sortant, mais il a un peu, je pense, déstabilisé l'équipe. Donc, je pense que Michel, écoute-moi, ce que je t'ai dit, essaye ça, peut-être ça ira mieux.
Je pense qu'il parlait beaucoup en défense, et je pense que c'est là peut-être où Marco Bizot parle moins forcément, parce qu'il connaît, il est nouveau au club, et puis il n'est pas français. Et alors que là, Gauthier Larsonneur, je pense, ramenait aussi beaucoup de confiance à la défense.
Et puis, et puis il avait le soutien des supporters. Exactement. Aussi, c'est important.
Attention, Brest, quand même,
toujours pas de victoire.
Si vous n'avez, vous n'êtes pas inquiet, c'est la seule équipe avec 5. Saint-Té, qui n'a pas gagné dans ce championnat. Saint-Té, on en parle. Exactement. Ils étaient dos au mur dans un derby face au Gone. Et un beau nul pour relancer l'équipe de Puel.
Exactement, un très bon match nul finalement pour Saint-Etienne, qui a réalisé finalement un peu par surprise un très bon derby, parce que Saint-Etienne qui réalisait un début de saison assez cataclysmique, le club mythique de Ligue 1, qui a réussi à décrocher le match nul en toute fin de match avec Wabi Kazri, alors que Wabi Kazri a eu quand même plusieurs occasions. Il a
sur un pénalty.
Sur un pénalty il a marqué, il a eu beaucoup d'occasions, notamment un poteau sur une tête en début de match, alors qu'il était quand même seul face au but. Le but qu'il met hors jeu, s'il se recule d'un mètre ou 50 centimètres en arrière, il le met, il y a but. Donc effectivement, Saint-Etienne a fait un très bon match. Lyon, malheureusement, a été plombé un petit peu par le carton rouge d'Anthony Lopez sur une main où il sort, le joueur stéphanois frappe dans le ballon pour la mettre vers le but, il l'arrête, il est en dehors de la surface, il n'y a aucune contestation à faire.
C'est pour ça qu'il prend le carton rouge.
Ils prennent du coup un pénalty encore sur une main de Jason Denayer, on ne sait pourquoi, qui défend les mains en avant, c'est une nouvelle logique, quand on défend sur une tête, on met les mains en avant.
Surtout qu'il est de côté en plus, il n'est pas obligé de faire ça.
Tu mets la tête, tu ne mets pas les mains vers c'est incompréhensible ce qui s'est passé. Et résultat, bah, malgré un bon match, parce qu'ils ont eu deux buts en jeu refusés à Lyon, notamment Shaqiri, qui aurait pu marquer pour son premier derby. Mais c'est pas passé à grand chose. Mais c'est vrai que oui, bah, Lyon finalement s'est un petit peu sabordé. Il maîtrisait son sujet, même si Saint-Etienne avait deux occasions. Après Lyon, on sait qu'ils ont toujours eu, ils ont toujours du mal et ils concèdent des occasions. Mais Lyon, ouais, c'est ça, c'est sabordé. Et
saison galère pour Lyon. Hein.
Bah c'est vrai que c'est un début de saison assez compliqué. Après ils sont pas non plus très loin du podium. Ils sont seulement à 3 points comme Nantes. Va falloir se ressaisir en Ligue 1 et tout, s'ajuster défensivement, faire en sorte que Boateng et Denayer finalement soient titulaire, il joue les 90 minutes, hein, parce que forcément, quand tu changes en défense au cours d'un match, c'est pas évident. Malgré quand même un bon début de saison en Ligue Europa avec leurs deux victoires.
Contre les Rangers et.
Et contre Brøndby.
Exactement.
Club danois.
Lyon qui est ex-aequo au classement avec Nantes.
Nantes, exactement. Mais avec une différence de but inférieure, donc ils sont dixièmes.
Allez, rapidement les autres résultats. Le meilleur voisin, c'est Angers, hein, qui bat Metz 3-2 au stade Raymond Coppa et quatrième de Ligue 1.
Exactement, après avoir été mené
1-0 puis 2-1.
1-0 et 2-1, voilà.
Ouais, on peut parler du bon boulot de Gérald Batic, là, l'ancien Auxerrois, hein, qui a remplacé...
Et ancien adjoint de Rudy Garcia et Bruno Genesio quand il était à Lyon.
Exactement, oui. Ouais. Quelqu'un d'important à Lyon. Autre voisin, Lorient, qui fait un match nul, un but partout.
Contre Clermont, donc c'est un bon match nul, parce qu'on sait que bah, Clermont fait un plutôt bon début de saison. C'est une équipe qui joue, avec un Bayo qui marque encore un but. Lorient qui fait aussi un très bon début de saison.
Ouais, ils sont dans le premier wagon.
Ils sont septième, ils sont devant. Donc finalement, c'est un match nul qui arrange personne, mais qui arrange plus Clermont que Lorient, finalement, parce que Clermont est derrière.
Alors, oui, côté favori, l'OM qui se prend les pieds dans le tapis à Lille. Hein.
Exactement, l'OM qui continue un petit peu à patiner depuis ils enchaînent une deuxième défaite finalement les Marseillais. Donc c'est match compliqué sans Dimitri Payet de Lille qui finalement revient bien après un début de saison compliqué, doublé de Jonathan David, le attaquant canadien qui réalise un très bon début de saison.
Lille qui avait été battue de 2-1 en Ligue des Champions
par Salzbourg.
Par Salzbourg avec très peu de réussite parce que pour moi les deux pénaltys n'existaient pas.
C'est mon arbitre
perso.
Et puis Monaco qui retrouve son standing avec une belle victoire 3-0.
Exactement, c'est un petit peu comme Lille, un début de saison compliqué, ils ont enchaîné un petit peu les défaites, les matchs nuls. Et là, contre Bordeaux, une belle victoire 3-0, début notamment de Tchouaméni, Golovin et Ben Yedder.
Tchouaméni que j'adore. Hein.
Ouais, c'est un très bon joueur. Il est suivi par la Juventus normalement.
Et il a surtout une cape en équipe de France.
Hein. Exactement. Donc la Monaco qui se ressaisit et malgré leur match nul en Ligue Europa jeudi, ils se ressaisissent bien en ce moment. Et
dernière équipe dont on va parler, le Racing Club de Lens, qui est deuxième au classement après une très belle victoire 2-0 contre Reims. Des buts de l'ancien Parisien, je ne sais plus comment.
Doublé d'ailleurs.
Calimuendo,
merci les copains. Doublé de Calimuendo hein, sur ce match pour Lens. Allez, à l'étranger, il y avait quelques affiches et celle qui nous intéressait, c'était la réception du Barça au Wanda Metropolitano pour l'Atlético. Et une belle victoire 2-0 avec un grand Lemar.
Avec un grand Thomas Lemar et un très bon complice d'attaque, Suarez, puisque...
El Pistolero.
Le premier but, c'est Suarez qui donne à Lemar et le deuxième, c'est l'inverse.
Exactement, c'est Lemar qui donne à Suarez. Suarez qui, soi-disant, était fini hein, pour le Barça, c'est pour ça qu'ils l'ont laissé partir libre chez le concurrent.
Il a laissé une petite phrase dans la semaine pour dire à Koeman que c'est dans l'histoire du mec fini, c'est plutôt Koeman.
Exactement.
Pour qui ça sent très, très, très mauvais après leur grosse défaite en Ligue des Champions.
Et surtout que Luis Suarez n'a pas célébré son but, mais quand même a laissé un petit passage avec le fameux célébration du téléphone. Lui qui avait reçu un téléphone de Koeman pour lui dire
qu'il ne comptait pas sur lui
cette saison. Et pour l'instant, il fait un très bon début de saison avec l'Atlético, qui sont deuxième du championnat.
Faut jamais fâcher son ex.
Et un choc en première ligue. Liverpool recevait City.
Exactement, le choc finalement d'un petit peu des champions, hein, sur les deux derniers champions d'Angleterre. Et se quitte sur un partage des points de partout. Un score plutôt logique sur l'ensemble du match. Liverpool qui, en seconde période, ouvre le score par Mané. Égalisation 10 minutes plus tard de Phil Foden, qui réalise un très bon match. Phil Foden qui, notamment, met un but et une passe décisive. Pour Kevin De Bruyne qui égalisera après le deuxième but de Mohamed Salah qui nous réalise, qui explose la défense de Manchester City par des crochets, par des râteaux. Il a fait un but somptueux avant de décocher une frappe croisée. Kevin De Bruyne qui du coup égalisera 5 minutes après. Match nul de partout.
81e, ouais.
Exactement.
Pour, ce résultat nul qui fait l'affaire des deux équipes.
Bah, les deux sont maintenant Liverpool est 2e et Manchester City est 3e. Donc les deux sont bien placés.
United, City, Chelsea et Liverpool, hein, donc aux 4 premières places du classement. On ne parle plus que de Big Four maintenant, hein, puisque Tottenham et Arsenal sont vraiment décrochés pour se mêler à la lutte.
Bah, pas tellement, parce que
ils sont qu'à 2 points. Peut-être pas cette année, mais depuis 3 ans, on va dire.
Tottenham est à 2 points de City et United. Arsenal est un peu derrière à 4 points. Tottenham, c'est pas fini encore. On peut quand même y croire avec Harry Kane qui peut les emmener un petit peu plus haut.
Ça manque de matos.
Mais effectivement, on connaît un peu le Big Four, même si United piétine encore un petit peu avec un match nul face à Everton, qui quand même, notamment.
Everton qui pousse à la porte, hein, depuis quelques saisons.
Oui, non, mais Everton,
cette saison, fait un très très beau début de saison.
Mais
il remplace un petit peu Leicester qui. Rate un peu son début de saison.
Pour United, normalement, ça doit être une formalité, hein, quand on voit l'effectif de cette année, le recrutement effectué. Finalement, après leur défaite à Aston Villa, ça piétine encore un peu.
Je ne les vois pas champions cette année. J'ai regardé une interview de Robbie Fowler qui nous disait justement, qui parlait un petit peu de toutes les équipes et qui disait qu'avec le recrutement de Varane, Ronaldo et je ne sais plus qui est le troisième à United.
Sancho.
Voilà. Jadon Sancho, il s'était armé pour combattre pour le titre.
C'est ça, parce qu'on parle de Koeman, par exemple, Koeman qui c'est 16 points en 9 matchs. Ole Gunnar Solskjær, c'est 14 points en 7 matchs. C'est à peu près dans les mêmes eaux. Donc finalement, on tire beaucoup sur Koeman, qui fait finalement, avec ce qu'il a, un bon début de saison. Hein, parce qu'à un moment, il faut regarder l'effectif du Barça.
3 victoires, 3 nuls, 1 défaite. C'est pas catastrophique.
Exactement. Donc, on verra sur la suite.
Bon, on va.
Vu que tu m'as rebalancé sur l'Espagne, j'en profite pour saluer la victoire de l'Espagnol dans l'autre derby contre le Real, 2-1.
Avec un but de Raúl de Tomás.
Voilà.
Allez, on ferme la page football sans vous rappeler les rendez-vous de la semaine. La Ligue des Nations avec un France-Belgique qui va arriver.
La demi-finale.
De l'autre côté, ça sera Italie-Espagne. Donc, 4 belles équipes. Un petit Final Four intéressant là, pour.
Sur le papier, oui, ça va être très intéressant.
Tout le monde arrive avec ses cadres. Hein.
Oui, tout le monde.
Personne n'est au repos, là.
L'équipe de France a laissé encore Olivier Giroud au repos, donc on n'arrive pas à sentir ses cadres.
Et Steve Mandanda aussi.
Et Steve Mandanda.
Allez, c'est fini pour le foot ce soir. On ouvre la page handball, Maëlan. C'est #time.
#time, Money Time. Toute l'actualité du HBC Nantes par notre bande d'experts. Débrief, info, interview.
#time. Money Time.
Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Eh oui, le H, Maëlan, le H, les Violets qui devaient confirmer après leur beau match à la
Montpellier, 34-28
à Montpellier. Oui, là ils étaient
face à leur meilleur ennemi.
En déplacement Aix, un concurrent direct pour l'Europe et les places européennes, puisqu'on sait que cette année, elles vont être chères, toutes ces places.
L'équipe de Thierry Henty, Romain Lagarde et
Nicolas Clerc. Et le H a fait le job, puisque un beau nul 27-27.
Oui et non. Parce que oui, alors ils ont mené en première mi-temps.
Ah, bonne entame, bonne entame.
Il faut une superbe entame.
Ils mènent 4-1.
Ils mènent 4-1, c'est ce que j'allais dire. Et puis du coup, il y a quelques ratés. À la finale, ils sont menés 12-11 à la mi-temps.
12-11 à la mi-temps, ouais. Aix s'est accroché.
Et puis après, il y a...
Un bon gardien.
Oui, très bon gardien.
Zaïf.
Les deux gardiens sont très bons.
Ouais.
Et du coup, moi, je veux parler de cette dramatique 38e minute.
La sortie de Nielsen.
Emil Nielsen va récupérer un ballon bord de terrain. Et puis, comme souvent les parquets, il y a un niveau de... Enfin, entre le parquet et... Pour jouer, le parquet de la salle, il y a un petit niveau. Il s'est tordu la cheville. Je pense qu'il en a au moins pour 15 jours. J'espère pas plus. Et j'espère que c'est qu'une grosse entorse. Du coup, Emil a été obligé de sortir. Et ça a un petit peu faussé le jeu des Nantais qui menaient d'un but à ce moment-là. Et Robin qui fait
à
3
sur 12.
Et puis qui prend à ce moment-là, Nantes est mené se retrouve mené 3 buts en 5 minutes. Nantes va revenir parce que ils ont très bien, les joueurs se sont battus et au moins pour leur gardien. Score final 27-27, Nantes arrache un match nul
presque inespéré, du coup. Au vu de la situation avec Emil Nielsen, et franchement, on espère que c'est pas grave. On va retenir que c'est aller chercher un match nul à Aix, ça sera peut-être pas le cas de tout le monde, et peut-être Montpellier vont se prendre les pieds dans le tapis.
Exactement. Après, quand on voit le match qu'on avait fait contre Montpellier, on pouvait être en attente d'un meilleur match, mais ça reste, on limite, on va dire, la classe contre Aix, qui est qu'un concurrent direct. Faudra pas que ça se répète de trop, surtout que Nantes, c'est quand même vise la Ligue des Champions.
Oui,
mais il y a deux places. Il y en a une, souvent, c'est Paris qui la prend, et la deuxième, elle est plus compliquée à aller chercher.
Mais Briller a été au niveau avec Nielsen, oui, moi j'ai trouvé dans ce brillé. Match. Hein, c'était les deux atouts du H. Pêche aussi, hein, qui depuis le début de la saison.
Pêche Malbec qui fait encore un début.
Et au niveau, Lazarov a été vraiment catastrophique à 2 sur 10. Il a tout vendangé. Pour moi, mais c'est que le début, Michael Robin ne présente pas toutes les garanties pour faire l'intérim d'Emil Nielsen pendant deux semaines.
J'espère me tromper. Après, Michael Robin qui est revenu de sa retraite pour pallier le départ de
du Moulin,
de Cyril Dumoulin, ouais. Un autre grand regret. Après, c'est des choix de coach, président et de tout. On va créer aucune polémique. Hein. Mais du coup, ouais, j'espère que ça passera.
On va dire calendrier favorable pour lui, puisque demain, ils resteront dans le sud et ils iront autour de l'étang de Berre à Istres. Donc, chez un adversaire beaucoup plus faible. Et puis vendredi, ça sera la réception de Limoges à la H Arena. Bon, là, c'est un petit peu plus fort, Limoges, notamment avec un certain Youri Dolenech, qui retrouve les parquets français.
Oui, qui a fait déjà une belle saison, un beau début de saison avec Limoges. Et puis Limoges qui nous avait battu l'année dernière.
Bon, c'était
à Beaublanc, mais
après on affronte quand même Istres et Limoges. Istres et Limoges qui se sont affrontés cette semaine, et c'est Istres qui a battu Limoges. Donc finalement, quel est le meilleur des deux en ce moment? On ne sait pas.
Bah, ils sont moins surprenants. En fait, plus personne n'est surpris par Limoges. Bah, c'est ça. En fait.
Et qui est le troisième gardien pour les semaines à venir?
Alors là, vous me posez une colle, les copains. Je cherchais, mais j'ai pas de réseau.
Ils t'ont pas recruté, non?
Non, il voulait appeler Lucien, mais...
Mais il est parti.
Bon, on a connu aussi cette semaine le tirage au sort de la Ligue européenne. Ça, on va en parler, puisque Nantes retrouve la compétition, on va dire,
secondaire.
Numéro 2 européenne. Avec un tirage, par contre, et des adversaires de choix. Hein. On parle d'un Allemand.
Lemgo.
Vainqueur de la Coupe d'Allemagne. Et habitué, on va dire, aux joutes européennes de l'European League. Le champion de Russie.
Tchekhov. Pas le poète, le dramaturge.
Qui viendra, je crois, pour la première fois en Loire-Atlantique, affronter le H. Ça sera idem pour le club de GOG, de la ville de Gudme, au Danemark.
Et on a Cox aussi, les Finlandais. La seule équipe qu'on a déjà jouée, alors la seule équipe qu'on a déjà jouée, c'est le Benfica Lisbonne, qu'on avait joué en 2012, et on avait gagné le match retour, au moins, de 7 buts.
Alors, 19 octobre pour le début des confrontations dans cette compétition. Une compétition où on retrouvera aussi Nîmes, Toulouse et Aix. Quatre équipes françaises dans quatre poules en compagnie de Bocador. Il y a des Allemands.
Il y a trois Allemands, deux Espagnols, deux Portugais.
Ouais.
On a toute la ville de Lisbonne, puisque le Sporting Club du Portugal est dans une autre poule.
Un Hongrois qu'il faudra aussi surveiller, le club de
Tatabánya.
Tatabánya, ouais.
Et on retrouvera des belles surprises
dans les matchs à élimination directe par la suite.
On verra ce que fera l'AEK Athènes qui avait gagné la C4 l'année dernière. On va avoir des trucs assez sympathiques.
Et le HF qui crée une compétition qui est apparue l'année dernière pour assurer des rentrées financières au club. Puisque là, encore une fois, ça sera une poule de 6, donc 5 matchs garantis à la maison. On en qualifie 4, donc il n'y a pas beaucoup de ménage au premier tour.
D'accord.
Et certainement pour Nantes, 7 matchs européens à jouer cette saison, si tout va bien pour nos violets.
Et on rappelle que c'est un des objectifs, puisque cette compétition, Nantes a fait deux finales.
Ah, elle nous échappe. Hein.
À la maison, deux fois perdu contre des clubs allemands.
Göppingen et Rhein-Neckar.
Mais du coup, on espère bien, les Nantais espèrent bien encore une fois organiser le Final Four. Hein, ils sont très bien notés dans les petits papiers de l'EHF, parce qu'ils font ça très bien. Et cette fois, il ne faudrait pas rater une troisième fois. Nantes est un peu sur son record dans les tablettes des équipes qui ont perdu deux fois une finale. Il ne faudrait pas que ça soit trois, parce que là, ça serait le super
record. On dit jamais 203, mais bon.
Là, on n'a pas envie de voir ça, donc on a vraiment envie qu'ils aillent au bout.
Non, puis Nantes est un des favoris de cette année.
Oui,
de cette
bien
coupe,
sûr,
largement,
sûr.
Après leur Final Four
l'année dernière. Bien sûr, avec les Allemands. Pour les Espagnols, c'est Larriora et Irun. Donc c'est un petit peu plus bas, mais...
Faudra faire attention.
Faut faire attention
mais à tout. Mais si on joue à notre niveau, il n'y a pas de raison que ça marche pas.
Et puis non, sortir des poules, c'est une évidence. On sera, je pense, dans les deux premiers. Donc forcément avec un huitième plutôt facile et un quart qui sera aussi abordable.
J'espère. Je croise les doigts.
Allez, on passe aux filles, Jean-Marc, et au Neptune.
Au Neptune, du coup, qui jouait samedi soir à Mangin. Dans une belle ambiance, avec des invités de prestige. Hein. J'ai croisé Estelle Nziminko, j'ai croisé Et elle allait très bien. J'ai croisé notre championne olympique, Blandine Dansette. Il y avait une belle ambiance.
Il y avait Camille et Glancerina aussi, je crois, non ?
Camille était là, oui. Bon, oui, elle est toujours là, avec son fils, pour encourager son mari. Et puis la fête était belle, l'ambiance était bonne, les petits fours aussi. je plaisante, j'en ai pas mangé. Mais du coup, tout ça pour vous dire que Nantes rate complètement son début de match. Alors, il y avait l'absence, et là, j'en suis navré, c'est de Diana Bassila qui s'est gravement blessée. Elle en a au moins pour 6 mois, et on parle peut-être de la saison complète.
Ah oui.
Grosse blessure au genou.
Il y a un joker médical, il me semble. Non
du coup, qui est arrivé, voleur, enfin, je ne sais pas trop comment on dit son
Foller.
Nom.
Mais...
Foller. Un truc.
Qui vient justement de Bourg-de-Péage, il me semble.
Et qui vient de Bourg-de-Péage, tout à fait.
Bon, on se demande si elle a bien fait.
pour elle, peut-être pas. Bourg-de-Péage, qui est une équipe qui est montée il y a 3 ans, si je ne dis pas de bêtises.
Ouais.
Je crois que c'était juste avant le Covid. Et puis qui grandit, une équipe qui grandit vraiment dans les structures, hein, une équipe qui est bien entourée, même les supporters qui se déplacent, ils ont un bon petit club du supporter qui fait beaucoup de bruit. Et puis, du coup, elles arrivent armées avec des joueuses comme Martha Mangué, ancienne brestoise, l'espagnole, Manon Ouette, internationale française.
Transfuge de Metz,
exactement. Donc du coup, pour vous faire un petit résumé du match, à la mi-temps, Nantes est menée 12-17 quand même, sévère. Après, Nantes va revenir plusieurs fois dans le match, mais toujours à portée de... Enfin, je ne sens jamais vraiment revenir, et puis ça repart 22-17 à la 45e. Elles reviennent à 2 buts à la 52e. Grâce à Podar qui a fait de belles choses.
Oui.
Et puis Nantes n'arrivera jamais à passer le truc avec Ada Plasek qui ne sera pas extraordinaire, oui.
Est-ce qu'on peut dire que du coup Nantes n'a pas réussi à passer le péage ?
Oui, elle est restée bloquée
à
la barrière de péage, oui. Comme beaucoup l'ont fait. Hein. Ouais, mais c'est mérité, pour le coup, c'est mérité. Bon, après, voilà, c'est vraiment le scénario.
Un bon début de saison.
Moi, je ne sais pas si tu es d'accord, mais j'ai vraiment trouvé qu'en début de match, déjà, on voyait que l'envie était déjà plus importante chez
Bourg-de-Péage.
Je suis complètement
d'accord. Alors, Bourg-de-Péage qui est resté sur 3 victoires, hein, qui était.
Oui, ils sont à 4-4 pour l'instant, début de saison, donc au top avec Metz et Paris.
Elles se construisent déjà depuis 1 ou 2 ans avec les mêmes joueuses. Donc là, elles commencent à faire des bonnes liaisons avec le pivot, notamment Sophia Dean et Martha Mangué, qui percutent, qui vient percuter, qui crée des espaces pour les autres pour aller au but après.
D'avoir Martha Mangué, c'est une sacrée recrue. Et
oui,
puis il y a Elodie Granvaux. Léna Granvaux, pardon.
Elle a 18 ans, très grand espoir, je pense.
Et puis dans les buts, Camille
Dupuiset.
Très belle perf.
Et qui revient quand même de blessure de croisée.
Exactement.
Franchement, chapeau. Et puis, oui.
Un match en fer. Hein. Même si nous, on a eu Florian André qui a fait un match correct en arrêtant encore vrai. Deux jets de 7 mètres. C'est devenu sa spécialité. Oui. Hein. Elle me rappelle un certain Mickaël Landreau pour le foot. Mais du coup, résultat final, Nantes perd 27-24.
Alors, c'est vrai qu'elles sont quand même dans le Money Time, c'était un petit peu.
Elles sont
plus
revenues
chaud.
À
moins 1 quand même. Moi, j'ai vu 24-25 à la 59e.
C'est ça. Il y a un moins 1 à un moment donné. Mais
ils ont eu une petite frayeur.
Mais avec une perte de balles juste directe derrière, en fait, on n'a pas eu le temps de s'enflammer.
C'est ça, Bourg-de-Bierge était solide, en fait. Mm-hmm. L'équipe était solide. Et franchement, c'était un beau match à regarder parce qu'il y a eu des belles choses et du grand niveau, je pense.
Exactement. Du coup, on a voulu mettre en avant Bourg-de-Péage. Donc, on va écouter Camille Depuisay, la gardienne, et Manon Ouette. Avec Camille Depuisay, la gardienne de Bourg-de-Péage, après cette très belle victoire 27-24 pour Bourg-de-Péage, et surtout pour vous, 16 arrêts personnellement.
Ouais, c'était un match super compliqué. On savait qu'on est à Nantes, qui est une très grosse équipe, et que venir gagner ici, ça allait être très très dur, parce qu'on est sur une bonne dynamique, et il fallait continuer comme ça. Et ce soir, on a réussi à montrer qu'on était stable et constante. Et on a fait une grosse, grosse, grosse défense, qui derrière aussi m'a permis de faire des arrêts. Et c'est un très gros résultat qu'on fait ce soir et on est très contente. On avait des ambitions et on travaille pour. Et on sait qu'on a encore beaucoup de choses à prouver parce qu'on reste encore que Bourg-de-Péage. Mais on a envie de changer de statut et je pense que cette victoire ce soir va nous permettre de continuer à travailler pour aller de l'avant.
Merci et bonne saison à vous.
Merci, c'est gentil.
Avec Manon Ouette, pardon, pour Radio Prune, après cette belle victoire 27-24 de Bourg-de-Péage, votre avis sur ce match?
On est très heureuse, très très heureuse. Hein. On fait 4 sur 4 sur ce début de saison, contre une équipe de Nantes très ambitieuse, très complète. Donc on est venu ici sans se mettre de pression, en se disant que le début de saison était déjà très beau et puis que ça serait juste incroyable de faire un 4 sur 4 ici. Donc très très fière, on a fait un match complet, un très gros match de notre gardienne et solide en défense, donc très fière.
Personnellement, vous avez quitté des jaunes et bleus qui jouaient le haut tableau pour rejoindre des jaunes et bleus qui sont en train de changer de dimension pour jouer le haut tableau.
Bah écoutez, quand j'ai signé à Bourg-de-Péage, j'ai eu beaucoup de retours de gens qui me disaient « Mais pourquoi ?» Moi, très honnêtement, j'étais sûre de moi parce que je connaissais les ambitions du club et la capacité de ces joueuses à développer du très beau jeu. Et comment te dire que je regrette pas du tout mon choix?
Et alors, du coup, là,
Tu pourrais dire où se trouve Bourg-de-Péage, parce que c'est vrai.
Oui, alors je vous aide. C'est dans la direction de Marseille. C'est juste au-dessous de Valence.
Voilà, donc dans la Drôme. Drôme.
Et puis, du coup, il faut y aller. Hein, c'est très beau par là-bas.
Et ce n'est pas qu'un petit bourg. Hein.
Et ce n'est pas qu'un petit bourg et qu'un petit péage.
À noter quand même qu'il y avait une bonne perf de Déborah Podard chez nous, qui a fait 7 buts quand même.
Donc c'est justement, j'allais en parler, puisque Déborah Podard, comme Ondono, André et je crois que c'est Dapigna, vont faire le stage avec l'équipe de France qui commençait hier.
En vue du mondial.
En vue des qualifs de mondial. Et puis, que ne fera pas Estelle Nzemiko, puisqu'elle est blessée, elle va profiter de sa famille.
Ah.
Et après cette trêve, Nantes jouera Nice.
Bon, en tout cas, du coup, grosse performance en ces débuts de saison de Bourg-de-Péage. Une équipe à surveiller, clairement. Mmh.
Moi, je mets sur les tablettes.
Ça peut être une bonne surprise.
Et après, par rapport à Nantes,
on va pas crier au loup. Le temps de crise.
C'est que le début de saison.
Enfin, deux défaites de rang, faut réagir. Faut réagir rapidement.
C'est pas l'équipe de l'année dernière non plus. Hein.
Non, c'est ça qu'il faut voir.
Mais une équipe qui comptait beaucoup quand même.
De nouvelles ambitions et des ambitions hautes.
C'est ça. Bon, après, il faut se caler. Après, voilà, on va pas tirer sur Guillaume.
Oh non,
il fait au mieux. Et puis, je pense que ça va bien se passer. Après, ça va permettre de remettre certaines choses en place.
Exactement.
Allez, on ferme la page handball et on va sur tous les terrains. Maëlan, c'est multizone.
Money time. Multizone. Tout le reste de l'actualité sportive détaillé par la team. Multizone. Money time. Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et brièvement, Jean-Marc, dans cette rubrique multizone, des scores des autres clubs de Nantes.
Voilà, alors je vais juste vous parler d'un petit peu de club local et de Coupe de France ou de Leaders Cup, puisque Nos hockeyeurs des Corsaires de Nantes se déplaçaient pour la Coupe de France à Caen pour affronter les Drakkars. Et une belle victoire et une qualif pour les joueurs de Martin Lacroix. 5-3, ouais. Un match totalement dominé.
On est à quel niveau de la compète là ?
C'est le premier tour.
D'accord.
Et en Leaders Cup, alors du coup ça tourne.
Le basket.
Là on parle de basket masculin. Et du coup l'Hermine qui avait fait plutôt un bon début de match, et ben, s'est incliné 81-69 face à Blois. Il restera un match à tour, mais ça va être compliqué pour aller chercher les poules suivantes de Leaders Cup. Et pour le volley, on attaquera les filles ce week-end avec un match face à Évreux, réception d'Évreux en championnat.
Les Normands.
Exactement.
Ok, allez, s'il est 19h40, on ouvre notre page vélo avec le quatrième monument de la saison. Charles, c'était Paris-Roubaix, qui inhabituellement se déroule au mois d'octobre.
Exactement.
Fais-moi rêver, Lucien. Charles, pardon, excuse-moi.
Oh là là. Excuse-moi. Exactement, c'était l'Enfer du Nord en automne, habituellement ce qui se déroule en avril, mais pandémie oblige, ça a été décalé en octobre.
Pluie plus boue du coup, puisque il y avait récolte de la betterave, donc il y avait de la boue partout.
Ça
faisait bien 20 ans et la victoire de Servet-Knaven qu'on n'avait pas eu des conditions aussi dantesques.
Ah mais c'est des conditions mais incroyables. Visuellement c'était, mais ça devait être une galère, une limite. En fait c'était une patinoire les pavés tellement c'était boueux, c'était vraiment très 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 compliqué pour les cyclistes, et du coup ce qui nous a fait une édition finalement magnifique. Et avec au bout la très belle histoire, c'est la victoire de l'Italien Sonny Colbrelli de la Bahrain Victorious.
Pourquoi tu dis très belle histoire ? On l'a considéré comme un suceur de roue pendant 250 km.
Mais c'est ce qu'on l'a vu faire au championnat d'Europe, en tout cas.
Et ça a marché. Il a gagné le championnat d'Europe. Il fait une très bonne saison avec la Bahrain cette année. Il gagne Paris-Roubaix en costaud aussi. Hein, parce que,
Au sprint.
Ils étaient trois. C'était
dans la route Van der Poel.
Exactement. Alors, surtout devant Florian Vermarsch, hein, le jeune belge de l'Auto Soleil, mais surtout devant Mathieu Van Der Poel qui complète le podium. Ce sont trois
qui
nouveaux.
Qui anime la course depuis les premiers secteurs pavés.
Exactement, donc on l'a vu quasiment attaquer dès les 150 km. Van Der Poel a décidément de dynamiter la course vraiment avec une facilité à pouvoir décrocher tout le monde.
Dont le favori
Wout van Aert ou même les deux Koenig Quickstep qui étaient quand même très solides, mais le Koenig Quickstep qui a joué très de malchance au moment où tout se décantait. Kasper Asgreen a crevé, Yves Lampaert a crevé, Florian Sénéchal a crevé, il restait Stibar qui malheureusement était un petit peu en dessous.
Il était crevé
c'était le cas de le dire. Yves Lampaert qui arrive quand même lui à revenir dans le groupe avec Mathieu Van Der Poel, mais il crevera un problème mécanique, problème de dérailleur, forcément il finira 5e de la course, mais surtout celui aussi qui anime la course, moi je vais en parler, c'est Gianni Moscon de la Ineos Grenadier, le coureur un petit peu fulgureux, l'attaquant un petit peu fou,
qui avait déjà fait un grand numéro au championnat du monde à Bergen en Norvège, et qui s'était fait coiffer là aussi pour le titre par un certain Peter Sagan, si vous vous rappelez de l'histoire.
Exactement, et Gianni Moscon
qui encore une fois pas eu la réussite escomptée,
et pas du tout, parce qu'il part, il est dans l'échappée avec notamment Florian Vermarsch qui finira deuxième. Il est dans l'échappée, il résiste à tout le monde, il part tout seul en solitaire en lâchant c'est Guillaume Boivin notamment, enfin ses coéquipiers, Lucro aussi si je me souviens bien, et il s'en va
Lucro
tout seul à 50
crevé, km lui aussi, et qui a fait n'importe quoi en montant sur le vélo.
Exactement, dans la trouée d'Arambert il chute ou il crève, il se remet sur son vélo, et de l'autre côté t'as le groupe Mathieu Van Der Poel qui arrive à fond sur lui. Du coup il fait tomber tout le monde quasiment, enfin notamment Mats Pedersen et tout qui était de la Trek. C'était vraiment n'importe quoi ce qu'il a fait Lucro à ce moment-là. Mais donc Gianni Moscon qui part à 50 km tout seul, il est littéralement sur une autre planète. C'était quasiment, je pense, le plus fort de ce Paris-Roubaix. Mais 20 km, crevaison, il perd à ce moment-là déjà 20 secondes. Il doit changer de vélo. Malheureusement, le vélo, les pressions de pneus doivent être un peu trop fortes. Résultat, il peut pas envoyer toute la puissance et tout le développé qu'il voulait mettre sur les secteurs pavés. Résultat, il glisse beaucoup, il rebondit beaucoup. Le groupe Mathieu Van Der Poel, Florian Vermaech et Sonny Colbrelli reviennent sur lui.
Tu peux dire même Mathieu Van Der Poel avec Sonny Colbrelli sur le porte-bagages.
Sur les pavés, c'est dur. Hein.
Non, franchement, Sonny Colbrelli, effectivement, il a pas attaqué parce qu'il savait que de toute façon, au sprint, c'était quasiment le plus fort avec Mathieu Van Der Poel qui a énormément donné sur ce Paris-Roubaix. Il avait sa tactique et on le respecte. Et à la fin, ça a très bien marché. Lui, il a dépassé notamment, c'était dans le dernier gros secteur pavé, là,
le carrefour de l'Arbre.
Carrefour de l'Arbre et tout, dans le dernier secteur où tout le monde dépasse Gianni Moscone. Gianni Moscone qui finit en quatrième. Et là, le dernier secteur pavé ne sert pas à grand chose, enfin, il n'est pas décisif. Et à la fin, ça se joue au sprint.
Ouais, c'est sur le vélodrome, au moins, exactement. On aura eu droit à un beau sprint
avec Florian Vermaech qui lance le Belge. Sonny Colbrelli, qui est du coup Florian Vermaech qui est l'intérieur. Sonny Colbrelli qui est à sa droite, qui empêche finalement Mathieu Van Der Poel de prendre de la vitesse, de monter et finalement de redescendre pour prendre de la vitesse. Il restera bloqué sur le haut. Sonny Colbrelli qui la joue très bien. Et en puissance, Sonny qui s'impose. On a vu donc cette magnifique image où à la fin il soulève son vélo, il est en larmes, il en peut plus parce que c'est magnifique avec ses conditions comme ça dantesques et tout. Un café qui télévisuellement c'était magnifique parce qu'on l'a vu, record d'audience sur France 3. C'était quand même incroyable. Lui qui était tout nouveau sur cette épreuve, c'est la première fois qu'il disputait ça le Paris-Roubaix à 31 ans. C'est magnifique. D'ailleurs, Florian Vermaech et Mathieu Van Der Poel aussi. Donc, c'est vraiment un beau podium.
Et après Lucro, c'est Gianni Moscone qui a failli faire tomber là aussi encore dans le sprint sur le vélodrome. Les trois protagonistes.
Gianni Moscone qui, du coup, parce que finalement, les trois arrivent, il y a un tour et demi à faire. Du coup,
ça,
au moment du sprint, Gianni Moscone, lui, il est dans son premier demi, dans le premier tour et tout. Il est tout à l'intérieur et il a failli gêner les trois protagonistes.
C'était incroyable. Je sais ce que je vais faire ce soir. Je vais regarder la rediff de Paris-Roubaix parce que je pense que c'est un très bon moment.
Franchement, les 200 derniers kilomètres avec le début des Vuelta, c'est magnifique à regarder. Moi, j'ai tout regardé. Matt aussi. C'était vraiment incroyable.
Alors, il y avait aussi, donc c'était le 123e Paris-Roubaix, je crois. À peu près. Allez, au jugé, on est à peu près par là. Et c'était aussi le premier Paris-Roubaix féminin qui a eu lieu la veille.
Juste avant de parler du féminin, je veux juste noter Christophe Laporte de la Coupe
Sixième.
Une belle sixième place. Une belle sixième place pour le Français.
Et du coup, c'était le premier Paris-Roubaix féminin. Et puis, c'est une ancienne...
Denain-Roubaix pour les femmes.
Alors, c'est Denain-Roubaix, ouais. La
et
distance est plus courte.
C'est Compiègne-Roubaix 100... chez les hommes, mais c'est 100... un Paris-Roubaix. Ouais.
C'est 119 km, mais avec
tous les là courants. Là aussi, beaucoup de souvenirs pour les filles qui auront eu droit à la pluie.
Pas trop de pluie pendant la course.
Ouais. Moins de pluie. Ouais.
Mais des chutes et la victoire de l'anglaise
Elisabeth
Degnan, qui normalement devait arrêter à la fin de la saison, qui refera une saison supplémentaire pour faire le premier Tour de France féminin qui aura lieu la saison prochaine. Et très belle victoire pour cette Anglaise de 32 ans après une échappée de 82 km.
Oui, elle est partie toute seule et personne ne l'a jamais remise.
Marianne Vos a bien essayé, mais trop tard.
Annemiek van Vleuten, pareil, elle a chuté, s'est cassé le bassin, donc coup dur pour la grande championne.
Et la troisième, c'est Longo Borghini, je crois, l'italienne.
C'est ça.
Oui, c'est ça, c'est
Longo Bordini, troisième. La semaine prochaine, un autre monument, ça sera samedi sur les routes du Piémont.
De Lombardie,
avec le Tour de Lombardie, comme Bergame, avec d'autres protagonistes pour cette course. On retrouvera Julien Alaphilippe, Pogacar, Roglic.
Remco Evenepoel, qui cette fois n'essaiera pas de chuter dans la descente du Sormano.
Et Nibali. Pino, Bardet, les frères Yates. Alors, qu'est-ce que vous voyez pour cette course?
Je ne sais pas, parce que entre-temps, il y aura Milan-Turin.
C'est pour les sprinteurs, ça. Hein.
Oui, mais Julien...
Ce sera
la première course de reprise pour Julien Alaphilippe avec son beau nouveau maillot de champion.
C'est le 6 octobre, donc mercredi.
Voilà.
Et donc, ça va être très sympa, Milan-Turin.
Julien Alaphilippe.
Profil aussi escarpé. Et...
Moi, je vais te dire même équipe,
des grimpeurs.
Mais pas même coureur. C'est Remco Evenepoel qui a gagné. Je vais juste annoncer le résultat. Qui a gagné aujourd'hui sa 8e victoire de la saison avec la Copa Bernocchi, qui a échappé solitaire sous la pluie. Il remporte cette petite classique. Il se prépare bien pour le Tour de Lombardie.
Espérons que ça lui réussisse mieux que l'année dernière.
Exactement.
Parce que l'année dernière, c'est sur cette course qu'il était sorti.
Qu'il est tombé dans le ravin. Là.
Exactement.
Voilà. Donc, ça serait une belle.
Et De Koninck, qui s'en sont à combien de victoires cette année?
Ah, mais ils sont une soixantaine et tout, c'est incroyable. De Koninck Quick Step qui, encore une fois, fait amasse sur victoire, avec notamment aussi Mark Cavendish qui, du coup, comment ça s'appelle dimanche, gagné le Mark Cavendish qui remportait le tour de Münsterland, sa première victoire depuis le,
Le Tour de France. Un peu tout seul sur cette course, hein, Mark.
Oui, bah, mais c'est toujours une victoire de plus pour la
Un mot d'un sprinter qui quitte le peloton, c'est André Greipel, fin de carrière après 158 victoires. J'ai noté les seuls coureurs devant lui qui ont fait mieux, c'est impressionnant. Il s'appelle Eddy Merckx, Mario Cipollini, Rick Van Looyen, Mark Cavendish et Sean Kelly. Hein.
C'est pour dire.
Dites-vous qu'un...
Le gorille de Rostock va nous manquer.
Cavendish derrière lui, pardon, à 156 victoires. Et bah, Valverde, des légendes comme ça sont derrière. Hein. Greipel, le gorille de Rostock.
À l'avantage, c'est qu'il est sprinter. T'as plus de chances d'avoir plus de victoires en étant sprinter qu'en étant un grimpeur comme Valverde.
Arnaud Démare, l'année dernière, c'est 11 victoires.
Exactement. Donc André Greipel, qui du coup, bah, c'était quand même un peu une légende, hein, du cyclisme allemand, du cyclisme mondial, qui s'en va, lui qui avait disputé son dernier Tour de France cette année avec la Israel Startup Nation. C'est vraiment un grand coureur. Bah,
les Allemands, grandes lignées de sprinteurs, hein, chez les Allemands, hein, on a eu les Abel, bien sûr, les Kittel. Greipel et Pascal Ackermann.
Lui qui était passé du coup par la France, hein, par une équipe française.
Oui.
C'était, si je me souviens bien, la Total Direct Energy, si je crois bien.
Je crois que tu as raison.
Donc,
pour une saison à peu près.
Oui, c'est ça, c'était pour une saison. Donc on aura eu la chance de voir Greipel en France. Mais c'est un grand personnage du cyclisme qui s'en va.
Salut le gorille. Allez, on enchaîne, on change de sport, on passe au sport méca et on parle de MotoGP. C'était le Grand Prix des Amériques hier soir.
Exactement, sur le circuit de Austin, à 14h heure locale, mais 21h chez nous, hein, parce que c'est pas tout, c'est pas à côté. Et la belle victoire de Marc Marquez qui a...
Deuxième de la saison pour
deuxième victoire
le sextuple champion du monde.
Exactement, après le circuit...
D'Allemagne.
Après le circuit d'Allemagne, c'était...
Hockenheim.
Non, c'est... Peut-être aucun âme, je sais plus. Mais c'est vrai que du coup, bah, le spécialiste, hein, lui qui avait déjà gagné 6 victoires sur le circuit d'Austin, remporte sa 7e victoire devant le Français.
Il est parti en première ligne et c'est lui qui fait le meilleur départ.
Exactement,
hein,
c'est logique. Hein,
ferme la porte, prend la corde et il la lâchera jamais.
Il passe normalement juste devant d'ailleurs Fabio Quartararo qui du coup conserve sa 9e place. Bagnaia recule à ce moment 3e. Mais un très bon départ, on le connaît. Marc Marquez, il est très vif sur les départs. C'est sur circuit qui kiffe, il n'y a pas de
qu'est-ce
raison.
Qu'est-ce qui a fait la différence, son moteur, pour qu'il aille si vite, ou il a vraiment pris
non,
des risques?
Non, non, il a pris des risques, il n'a rien à perdre au championnat, il est allé vraiment...
Si, ça sentait quand même, parce qu'il tombe souvent en plus, Marquez.
Oui, mais c'est celui le coureur qui a le plus, le pilote qui est le plus tombé cette saison, mais lui, il a tout donné, mais après, une fois qu'il a vu qu'il avait de l'avance... Il s'est un petit peu, il savait qu'il prenait moins de risques.
Quartararo, il a pas pris des risques pour aller gagner.
Exactement, Fabio Quartararo, le Français qui du coup finit deuxième devant Pecco Bagnaia, donc lui reprend encore des points. Et c'est très bon ça pour le classement général. Lui qui du coup n'a pas pris de risques, il savait, hein, il avait beaucoup de pression sur cette course, hein, comme il le disait, parce que c'était un petit peu une course qui pouvait jouer pour le classement. Le classement général. Donc c'était important de faire un bon résultat. Donc une belle deuxième place pour Fabio qui du coup consolide sa place de leader au classement général avec du coup une
troisième place
points.
Pour son adversaire, donc Pecco Bagnaia, qui a bénéficié de circonstances de course de la part des autres pilotes Ducati, hein, et même chez Pramac,
ouais. Jack Miller qui
pour lui offrir les points de la troisième place. J'ai pas trouvé ça très sport en Formule 1, ça n'existe pas.
Si, arrête.
Excuse-moi,
Bottas qui le fait pour Hamilton, les machins comme
dehors,
ça, on connaît.
Ils se foutent dehors à chaque fois les deux pilotes de la même équipe. C'est
après,
même,
la différence, c'est que vraiment Pramac et Ducati officiel, c'est vraiment très très lié. Là où la différence, c'est que par exemple, Mercedes a beau avoir une filière avec Williams et McLaren,
c'est souvent que le moteur.
Ils ne donnent que le moteur ou quelques pièces, mais c'est pas vraiment, il n'y a pas de lien direct vraiment. Alors que là, c'est vraiment quasiment, c'est les mêmes motos en fait. Hein, faut pas se cacher, hein, c'est vraiment les mêmes motos, les mêmes évolutions sont apportées aux quatre motos. Donc c'est pas étonnant. Donc Fabio Quartararo qui du coup grappille des points et du coup place à 52 points d'avance sur Pecco Bagnaia, ce qu'il fait du coup qu'il peut devenir champion officiel l'année prochaine, dans 3 semaines. Au circuit d'Emilie Romagne, du coup à Misano. si il reste de vous devant Pecco Bagnaia ou qu'il
ouais, puisqu'il restera que deux grands prix.
Il restera que deux grands prix, donc voilà. Plus de 50, c'est 25 points maximum par grand prix.
Ouais, ça sent bon pour lui.
Un petit mot de WRC et après ouais. Je te passe la parole pour le golf. Victoire Delphine Evans, le deuxième du classement.
Rallye de Finlande.
Oui, Rallye de Finlande, c'est qui a lieu au mois de septembre, en octobre, alors que d'habitude c'est en juillet. Ça change un peu les choses. C'est donc Delphine Evans qui l'emporte devant Aude Tanak, troisième Craig Breen, l'Irlandais. Sébastien Ogier est cinquième, mais toujours bien placé pour gagner son huitième titre de champion du monde.
Exact. Pour rejoindre Sébastien Loeb, notamment.
Il en aura un moins. Il n'ira jamais chercher le neuvième.
Ça va être compliqué, hein. Trop dur maintenant, donc mais, mathématiquement même impossible.
On a des très bons Sébastien en WRC.
Allez, un mot de golf maintenant. On parle de PGA Tour, la victoire au Sanderson Farm pour Sam Burns, qui a longtemps lutté... Et il s'impose d'un coup. Moi, je note Paul Barjon, le nouveau Français sur le PGA Tour, qui, après deux tournois, a passé deux cuts. Donc, c'est très positif. Pour lui, l'apprentissage se poursuit. Chez les femmes, évidemment, on va parler de la victoire de Céline Boutier sur le circuit féminin américain. Sa deuxième de sa carrière après ses très bons résultats en Solheim Cup, l'équivalent de la Ryder Cup où elle avait gagné tous ses matchs. Et surtout, sa victoire à l'Open de France sur le golf national du Médoc pour le Lady Lacoste. Donc, on suit cette Française.
Une belle victoire pour Céline Boutier.
Qui est en pleine forme, en pleine bourre.
Du coup, moi, j'ai un petit mot sur le rugby, sur le top 14, avec Toulouse qui continue son avancée avec une cinquième victoire en cinq matchs, une victoire sur Biarritz, avec notamment Antoine Dupont-Ndama qui n'était pas titulaire pour ce match-là, mais forcément, il fallait faire rentrer le roi Dupont qui a délivré encore une fois le Stade toulousain avec un très bel essai en solitaire, le crochet qui efface toute la défense, il part en solitaire. Toulouse qui conserve sa place en tête du classement devant Bordeaux qui réalise encore avec Mathieu Jalibert notamment
un hold-up à Lyon, ouais. Lyon qui aurait pour moi dû gagner ce match et qui le perd. Avec beaucoup de réussite pour les Bordelais, tant mieux pour eux. Et j'ai noté, moi, la victoire, c'était hier soir, de Clermont qui gagne enfin contre le Racing.
Exactement, Clermont qui était empêtré dans les fins fonds du classement, qui remporte du coup sa deuxième victoire cette saison. Ça fait du bien parce que Clermont, c'est censé être les deux derniers finalistes de Ligue des Champions, enfin de la Coupe du Champions Cup et du Top 14. Voilà, c'est La Rochelle, je suis débile.
C'est La Rochelle.
Voilà, Clermont qui était.
Et tu vas nous parler de La Rochelle.
Oui, je vais
parler
de La Rochelle juste après, mais Clermont qui est quand même une équipe qui est mythique. Qui est quand même mythique, hein, qui réalise. Qui est championne finalement il n'y a pas si longtemps que ça et tout. Qui doit se ressaisir et qui vise.
Clermont 10e, Toulon 11e et La Rochelle, on terminera là-dessus.
Qui perd
13e.
Contre Montpellier, malheureusement. 21-11 pour Montpellier. Du coup, La Rochelle qui malheureusement s'en pètre toujours un peu plus dans les fins. En fin de classement, ils sont 13e, juste devant le Stade Français. À noter la blessure de Arthur Vincent, l'arrière de Montpellier.
Grave blessure.
Il s'est fait les croisés, lui qui est en équipe de France. Donc on lui souhaite un bon établissement, surtout que c'est un petit jeune, hein, génération 99, génération Romain Tamac. Donc on lui souhaite un bon rétablissement.
Et Pau a gagné le derby des Pyrénées.
Exactement, Pau qui bat Perpignan 29-14 à Perpignan et du coup qui s'installe 5e.
Eh bien, ça sera le mot de la fin. On se retrouve lundi prochain à 19h au même endroit. On vous souhaite une belle semaine. À bientôt. Ciao, ciao. C'est Passage en Force, tout de suite
à
sur les ondes de Prune.
Bienvenue pour la première de Passage en Force.
Ciao. C'est...